L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Comme chaque samedi, 16h-18h, vous le savez, toute l'actualité des nouvelles technologies et de l'économie numérique. Justement, on va parler d'économie maintenant dans notre passion selon Sanet. Avec vous, Lila, et notre invité, on va parler d'économie collaborative, de droit. On va essayer de comprendre tout ça parce que parfois, c'est un peu compliqué.
Ben oui, d'autant plus que le mouvement est en plein essor.
Ah oui.
Cette fameuse économie collaborative a représenté en 2014, rappelons-le, 20 milliards d'euros, dont 2,7 pour les particuliers. Mmh. Et d'ici 2025, elle pourrait générer 268 milliards.
Donc eh ben,
c'est dire le succès, oui. Le succès de ces applications. Alors aujourd'hui, ça concerne le logement, le transport, d'ores et déjà la livraison, l'éducation. Certaines plateformes ont éveillé la colère de certains acteurs traditionnels, notamment les taxis qui sont en grève depuis environ 2 semaines maintenant et qui réclament la régulation, voire la tête des VTC.
Les hôteliers aussi ont poussé leur gueulante il y a quelques temps de cela. Hein,
tout à fait, et Accor qui s'est senti obligé d'annoncer son plan de transformation digitale. Donc, pour évoquer les enjeux juridiques et qui en émanent, on a le plaisir d'avoir en studio Arthur Mirand.
Bonjour.
Alors, Arthur Mirand, vous êtes avocat et co-auteur d'un ouvrage, Économie collaborative et droit, les clés pour comprendre, paru aux éditions FIP. On vous avait reçu sur un sujet assez proche. À l'époque, on se posait la question de la durée de vie de l'économie collaborative. On s'interrogeait un peu sur la pérennité. Alors, question pareille, un peu naïve. Est-ce que vous pensez que ces pratiques sont bel et bien installées, Arthur Mirand?
Alors, merci de m'avoir invité. Le mouvement pour nous et le livre qu'on a écrit en témoigne, et il est très présent. L'explosion de ces modèles n'est plus à démontrer, et la pérennité de cette économie-là va s'installer et ne sera pas remise en cause. On assiste cependant à des tensions qui sont en réalité dues à des à la remise en question et aux nouvelles questions que posent ces modèles économiques qu'on dit disruptifs. En réalité, ce que ça veut dire, c'est que par le biais d'Internet, les nouvelles technologies, diminution de coûts, on offre un service meilleur, plus proche des utilisateurs, et on crée une nouvelle demande. Peut-être juste en deux mots, le livre qu'on a écrit, c'est l'aboutissement de notre réflexion, parce que ça fait plus de 2 ans qu'on consacre du temps et beaucoup d'énergie, et qu'on tient un blog. Voilà, exactement. Donc le blog s'appelle Droit du partage, et ce livre, c'est une manière pour nous de mettre en avant une description de ce phénomène. Donc ça rejoint votre introduction. Combien ça représente, quel genre de pratique, pourquoi est-ce que nous on y voit des signes de pérennité, et puis ensuite après on met en perspective les enjeux juridiques. L'objectif n'est pas de faire du droit pour que personne n'y comprenne, au contraire, c'est plutôt un livre à destination du grand public pour démontrer que toutes les problématiques sont compréhensibles par tous et peuvent être appréhendées. C'est aussi un guide pratique pour les entrepreneurs qui se lancent dans cette économie-là, pour avoir une sorte de boîte à outils, des bonnes questions selon le secteur dans lequel on se lance. Et enfin, nous, c'est un double message qu'on porte. Hein. C'est un message d'optimisme fou face à ces modèles-là, une chance et un réservoir de croissance qu'il ne faut pas négliger, et le poids économique.
Un flou,
ça c'est le pendant, le flou juridique qui est là. Et nous, avocats, parce que c'est ma profession, on se voit pas du tout comme des freins, on voit plutôt notre profession et les règles de droit comme des manières de sécuriser et d'encourager ces modèles-là. Il faudra cependant faire attention à ne pas avoir un excès de normes pour ne pas brider et empêcher ces initiatives de prospérer.
Alors aujourd'hui, on a un peu l'impression d'une espèce de cours des miracles. Pour prendre l'exemple, par exemple, d'Uber Pop, qui s'est vu interdire ses services en France. Mm-hmm. Hitch, de son côté, continue à prospérer sur un malentendu. Aujourd'hui, où s'en est cette fameuse régulation de cette économie collaborative? Est-ce qu'il y a déjà quelques graines?
Bien sûr, ouais. Là, vous me parlez du secteur des transports, qui est, bon, là, en l'occurrence, l'actualité démontre que c'est encore une grande actualité. Je vais d'abord parler de ce qui s'est bien passé pour parler de choses qui se passent moins bien. Premier exemple, le financement participatif. Ces pratiques-là ont eu un essor pendant des années, en dehors de tout cadre juridique, puis finalement, on s'est rendu compte que c'était peut-être quelque chose d'intéressant. Le législateur s'en est saisi, a fait une ordonnance bien ficelée, des règles claires, et ça a sécurisé l'ensemble de la pratique. Aujourd'hui, il y a des statuts, il y a des agréments
délivrés. Sans que ce soit trop pénalisant.
Voilà,
on a laissé une certaine liberté au concept.
Il y avait une liberté, on a juste pris la mesure de ce mouvement. En plus, on est dans un milieu où il y a le secteur bancaire d'une part et ensuite des nouveaux acteurs. Donc, il y a eu un équilibre et des règles juridiques adaptées qui ont été trouvées. Vous me parlez du transport. C'est un exemple, et je fais référence à la loi Thévenoud, donc celle dont tout le monde parle, celle qui a fabriqué cette infraction anti-Uberpop. De mon point de vue, elle est mal ficelée. Elle a été prise dans un empressement.
Oui, voilà, elle était faite un petit peu dans l'urgence.
Dans l'urgence.
Sur la pression, ce qui est jamais bon.
Hein. Sous la pression des groupes de taxis, dont on peut comprendre par ailleurs les enjeux, mais... Prendre une loi, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, prendre une loi dans l'empressement, rajouter des normes dans des secteurs très compliqués comme celui des transports, on a ajouté des textes de loi ici ou là. Finalement, ça a créé plus de problèmes que ça n'en a résolu.
Ce sont des rustines qui vont pas forcément tenir très longtemps.
Exactement, quoi. Et ça a conduit plutôt à brider des initiatives. Alors après, ça en réjouit certains, ça en désole d'autres. Nous, on est plutôt en faveur d'une remise à plat de ce secteur-là dans les règles juridiques et d'essayer d'appréhender les choses autrement pour que ça soit pour du transport de marchandises ou du transport de personnes, on puisse y voir un peu plus clair.
Est-ce que ça va être le cas, à votre avis? On va être obligé de tout remettre à plat?
Nous, dans le cadre de notre blog et donc à la faveur de ce livre, on a été reçus par des conseillers d'Emmanuel Macron. On a fait porter nos messages. On espère que la loi Noé Macron 2, si elle devait aboutir et être présentée finalement au Conseil des ministres, pourra porter des simplifications. Après, on peut que nous être force de proposition. L'ensemble des cartes ne nous appartient pas.
Est-ce que c'est pas également une question de fiscalisation? Il y a déjà des premières initiatives, notamment Airbnb, qui enjoint ses utilisateurs à déclarer leurs revenus aux impôts. On a déjà une première mesure, il me semble que c'est au-delà de 32 000 euros de revenus. L'utilisateur, enfin le locataire, en l'occurrence, se voit déduire 50%.
Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Il y a l'enjeu pour l'État, il y a ensuite l'enjeu pour la plateforme de survivre, ensuite il y a l'enjeu pour le particulier qui y participe. Dans le livre qu'on a écrit, il est fait un peu le tri et une segmentation des différents enjeux parce qu'ils sont pas tous au même niveau. Oui. C'est-à-dire que quand vous êtes particulier, vous allez vous poser la question de à partir de quel moment est-ce qu'il faut que je déclare mes revenus ou à partir de quel moment est-ce que je dois créer une société ou être auto-entrepreneur.
Aujourd'hui, il y a des plafonds.
Alors, il n'y a pas de plafond fixe. C'est là où
c'est
la beauté juridique. Mais ce qui est important, c'est de savoir si on fait, si on a recours à ces plateformes-là en vue d'exercer une activité professionnelle ou en vue de gagner de l'argent ou alors juste à titre privé pour dépanner. C'est-à-dire que pour prendre deux exemples dans les transports comme vous m'y invitiez, est-ce qu'on est juste dans le covoiturage, à savoir un point A à un point B où de toute façon on sera dans du partage de frais et où personne ne gagnera d'argent, ou est-ce qu'on est dans de la prestation de service où on déplace quelqu'un d'un point A à un point B pour un service commercial? Et en réalité, cette distinction privé-commercial, on la retrouve dans tous les modèles, dans tous les secteurs, et c'est transversal. Ensuite, pour la clarification fiscale, l'État a un vrai intérêt à une simplification et une rationalisation de tout ça, parce que c'est beaucoup d'argent qui lui échappe. Les plateformes, par ailleurs, ont intérêt à montrer patte blanche pour que l'État n'ait pas envie de les éradiquer. Donc, il y a un consensus pour essayer de trouver une solution. Là encore, nous, on porte des solutions pragmatiques et qu'on pense intéressantes, qu'on décrit dans notre livre. C'est notamment l'histoire de la franchise. Vous avez peut-être vu ça dans le projet de loi de finances pour 2016. Le Sénat avait proposé une franchise de 5 000 euros. Ça veut dire qu'en deçà de 5 000 euros, quelle que soit la nature des revenus, vous serez exonéré. C'est-à-dire que vous ne déclarez pas. Et là, il y a une histoire de seuil. Nous, on irait un tout petit peu plus loin pour apporter une petite distinction à savoir 5 000 euros, ça peut être 5 000 ou un autre, disons, fixer un seuil pour la prestation de service, donc quand vous rendez service, que vous consacrez du temps. Mmh. Et ensuite, pour des biens physiques qui sont mis à disposition, je pense à un logement, je pense à une voiture, je pense à une perceuse, je pense à plein de choses. Là, le seuil ne serait pas fixé unilatéralement, mais dépendrait de chaque objet et dépendrait de son coût d'amortissement annuel. Voilà, ça c'est des solutions qu'on porte et qui pourraient favoriser une simplification pour un peu tout le monde.
D'un côté, la fiscalisation, donc de voir plus ou moins des utilisateurs de ces services. Mmh. Est-ce qu'on pourrait également évoquer les droits, à savoir qu'on se retrouve avec beaucoup d'utilisateurs de ces services qui tendent à se professionnaliser sans pour autant avoir le statut, le bon statut. Est-ce qu'on ne devrait pas parler de refonte du droit du travail pour aller plus loin? Est-ce qu'on ne devrait pas songer à accorder un statut peut-être de micro-entrepreneur, d'auto-entrepreneur à ces personnes? Quelle est votre position par rapport à ça?
Alors moi, je suis avocat, donc j'ai un prisme très pratique et j'ai envie plutôt de porter des messages simples et faciles à mettre en œuvre. Donc, pour moi, les règles juridiques existent et sont satisfaisantes dans une certaine mesure. La seule chose qui manque, c'est de la pédagogie et un petit peu plus de lisibilité de ces règles. Pédagogie vis-à-vis des utilisateurs et lisibilité vis-à-vis des entreprises qui se lancent dans ces nouveaux marchés. Parce que pour l'individu, il a besoin de savoir à partir de quel moment il va devenir un peu commerçant. Parce qu'il va souvent le faire sans s'en rendre compte. Mm-hmm. Ça, il y a des critères qui existent, à savoir avoir envie de gagner de l'argent, le faire de manière régulière. Donc tout ça, il suffirait de l'expliquer et de pouvoir peut-être faire de la pédagogie vis-à-vis des utilisateurs. Ensuite, il y a besoin de prévisibilité pour les entreprises qui ont besoin de savoir où elles mettent les pieds. Et ça, nous, on milite pour l'adoption, par exemple, de lignes directrices sur les facteurs à prendre en compte pour un emploi salarié ou un autre entrepreneur.
Arthur Milleron, merci beaucoup.
Je vous en prie, merci beaucoup.
Merci beaucoup. On rappelle, vous êtes auteur de l'ouvrage « Économie collaborative et droit, les clés pour comprendre » paru aux éditions FIP.
Merci.
Merci.
Et vous restez avec nous. La suite de cet atelier avec, entre autres, notre World Tour et notre French Tech Tour. À tout de suite.